Je laisse la parole à Jean-Pascal.
Merci Emmanuel pour cette présentation très complète. J'ai trouvé d'ailleurs passionnante. Alors je voulais juste préciser une chose. D'abord vous remercier de cette invitation de l'Observatoire des politiques culturelles. Vous souhaitez la bienvenue également. Et juste réagir, puisque ça peut introduire aussi notre sujet tout à l'heure, effectivement, au nombre très important de rapports qui ont illustré ces derniers temps la relation entre culture et économie. Tu parlais de celui de l'Union européenne. Sachant quand même que la question de la culture pour eux, c'est plutôt les creative industries, c'est-à-dire c'est très large, c'est-à-dire les arts, ce qu'on appelle le spectacle vivant, mais c'est aussi la presse et tout ce qui est lié à la communication autour de ça, les jeux vidéo, les logiciels, voilà, donc ça c'est l'industrie culturelle au sens très large. Au-delà de ça, il y a un rapport qui a été produit aussi par Xavier Greff pour l'OCDE, dont on sait que ça n'est pas un organisme d'obédience très ouverte sur le plan économique, qui interroge justement la relation entre la culture et le développement local. Il y en a un autre pour le ministère de la Culture en France. Et puis, un dernier qui a été demandé par l'Assemblée nationale et qui concluait à l'intérêt, justement, pour les territoires d'investir dans la culture pour le développement. C'est bien la première fois que je vois des élus conclure de telle manière, de manière si tranchée, sur des questions qui nous intéressent tous aujourd'hui. Alors, je suis en compagnie de porteurs de projets que nous allons rencontrer plus précisément tout à l'heure après la pause café, mais je vous les présente très très rapidement. Donc Rosemarie Chawila Binene, c'est de la République démocratique du Congo, donc de Lubumbashi au Katanga. Je suis aussi en compagnie de Tony Sfer qui vient du Liban, donc de Beyrouth, qui est manager général et directeur de Incognito Sarles. Olivier Jacquet, directeur de production agence interexterne, agence de musique de Traverse. Fabien Fabre, administrateur et formateur de MAO, atelier de pratique multimédia. Voilà, donc bienvenue à tous. Juste un petit mot sur l'Observatoire des politiques culturelles. C'est donc un observatoire, c'est l'Observatoire national des politiques culturelles qui a été créé en 1989. L'histoire est fort longue, mais enfin on va dire que c'est le ministère de la Culture s'est rendu compte qu'effectivement il fallait un outil d'accompagnement pour le développement des politiques territoriales. Donc notre objet, c'est justement d'accompagner la réflexion, mais aussi in vivo, la construction des politiques publiques de la culture. Alors il s'agit d'accompagner l'État dans certaines réflexions. Ça a été le cas de ministres qui nous ont confié, par exemple, l'accompagnement des protocoles de décentralisation, l'accompagnement des expérimentations en région. Avec Gilles, on avait participé à la concertation nationale sur les musiques actuelles. Mais ce sont aussi des départements, des villes. En France, mais en Europe, puisqu'on a accompagné aussi pas mal de pays d'Europe avec le Conseil de l'Europe, qui nous demandent une certaine expertise et un accompagnement pour le développement de leur politique territoriale. On intervient aussi dans le domaine des formations, puisque l'Observatoire a créé le premier master en formation continue en 1984 pour les responsables de projets culturels, donc formation des cadres, c'est une formation continue. On forme aussi les cadres étrangers qui viennent par le biais du ministère des Affaires étrangères chez nous à Grenoble pour s'informer sur les politiques culturelles et leur développement en France, etc., etc. Il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On produit des études. Par exemple, la dernière en date, c'est celle sur l'intercommunalité culturelle en France, sur le développement de la prise de compétences dans les intercommunalités relatives donc à la culture, etc., etc. Donc dans des tas de domaines, l'éducation artistique, le développement des territoires. Et puis, on organise un certain nombre de colloques qui sont destinés justement à faire circuler l'information de préférence en cherchant à être en avance sur les évolutions et les tendances qui sont à l'œuvre en France et à l'étranger, en Europe, puisque nous sommes aussi membres et fondateurs de plusieurs réseaux internationaux et européens. Donc, j'ai le plaisir de me retrouver avec les différents intervenants que je vous ai présentés, et puis en particulier avec Gilles Castagnac et Bruno Rochegut. Donc, Gilles Castagnac est directeur de l'IRMA, le Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles, et Bruno Rochegut, secrétaire général de ESIA, Économie solidaire et insertion active. Alors, je voulais, avant de leur laisser la parole, fixer juste une petite règle du jeu, parce que vous avez vu que le temps qui nous est imparti est court, c'est normal. Dans un tout colloque, il faut une structuration. Après la très complète introduction, je crois qu'il est inutile de rajouter grand-chose, simplement pour nous remettre dans le sujet un peu plus précis là, qui nous anime tout de suite, c'est l'entreprise culturelle, une exception économique, point d'interrogation. Alors évidemment, on sait à quel point ces entreprises culturelles peuvent avoir des tailles différentes. On sait que les grandes entreprises culturelles, les majors, etc., exercent un rôle très important et une pression fondamentale sur l'économie en général. Mais on sait aussi que ce qui se joue sur les territoires est sûrement plus important, puisque c'est là, dans ces très petites entreprises, ces micro-entreprises, que se joue le renouvellement des cultures, le renouvellement artistique et aussi la diversité des cultures, enfin que les enjeux de diversité culturelle sont le plus souvent ici. Et donc c'est peut-être à ces aspects-là que nous allons nous intéresser plus particulièrement lors de cette première table ronde, en se demandant si on peut effectivement parler de l'entreprise culturelle comme une autre entreprise, enfin, quelles sont ses spécificités, ses différences, mais aussi en quoi elle est comme les autres dans, les jeux, dans le jeu économique, ou plutôt à quels critères elle doit répondre si elle veut rester ou entrer dans le jeu économique, et puis dans quels principes elle doit entrer effectivement pour avoir accès aux prêts bancaires, attirer les investisseurs, accéder aux aides publiques et privées, dont nous allons voir qu'elles sont bien sûr prévues et importantes. Questions sous-jacentes qui nous animeront, je pense aussi, ce sont le développement des potentialités économiques de ces entreprises, la stabilisation des emplois, la professionnalisation des acteurs et bien sûr la relation au développement local. Alors, replacer l'entreprise dans le jeu économique, eh bien, ça va être le sujet de notre table ronde, avec donc Gilles Castagnac qui interviendra en premier, et puis Bruno Rochegude, et je laisse donc la parole à Gilles Castagnac.